Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Le numéro 792 nous rappelle que le Christ est tête du corps qu'est l'Église. Ça s'est tiré de l'Épître aux Colossiens au chapitre 1er. Et on a vu que lors de la dernière émission que tout était centré sur le Christ, qu'il est à la fois principe de la création, principe de la rédemption, il a toute la primauté et il est chef de l'Église. Donc j'imagine qu'avec une telle tête, un tel chef, il nous faut, nous, membres du corps de l'Église, essayer d'obéir au doigt et à l'œil de ce Christ, de ce chef.
Alors, je dirais oui, en partie, la question a un versant positif, mais a aussi un versant négatif, parce que obéir au doigt et à l'œil, on sait bien, cette expression est récente en français, date du XXe siècle, et signifie le dressage, comme on dresse un chien, on lui fait un clic dans les doigts, il doit se coucher, il doit manger la petite sucette, etc. Bref, c'est vraiment le dressage, alors que pour notre Dieu, il s'agit évidemment d'un rapport complètement différent. Jésus d'ailleurs utilise le mot « doigt » avec une expression qui renvoie au Saint-Esprit. Donc c'est tout à fait différent. Et je vous lis le passage de Luc 11, 20, dans lequel Jésus dit, alors qu'on l'accusait d'expulser les démons, en disant que c'est peut-être au nom des démons qui les expulsaient, mais il répond « Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume des dieux est arrivé jusqu'à vous. » Et donc le doigt a une signification biblique beaucoup plus élevée, puisqu'elle renvoie d'une certaine manière au Saint-Esprit. Quand on lit les parallèles dans le synoptique de Matthieu et Marc, on voit que le même passage, eh bien Jésus dit « Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est que le royaume de Dieu est arrivé. » Donc, le doigt de Dieu est une belle expression pour donner une sorte de synonyme du Saint-Esprit. Alors, nous comprenons que oui, il faut être sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, il y a une part positive dans ce que tu dis, mais l'Esprit nous rend intelligents, l'Esprit nous rend capables de faire un véritable acte d'obéissance qui commence d'abord, non pas par obéir au doigt et à l'œil, comme on dit de nos jours, comme un chien bien dressé, mais en faisant acte d'intelligence, puisque toute ma nature est sollicitée par cette demande de la véritable obéissance, qui est une obéissance amoureuse, qui non seulement comprend, intellige ce qui est demandé, mais en plus pose un acte d'amour, un acte qui rejoint la finalité de celui qui me commande à bon escient, parce qu'il veut mon bien et que moi-même je me dirige vers mon propre bien. Et donc c'est un acte le plus complet, l'acte d'obéissance. D'ailleurs, saint Paul utilise deux fois dans l'Épître aux Romains, au début et à la fin de sa grande épître dogmatique la plus, je dirais, élevée d'un point de vue de l'intelligence de la foi, cette expression « obéissance de la foi ». Donc la foi nécessite l'obéissance, mais la véritable obéissance, non pas celle du petit caniche que l'on dresse, mais celle de l'homme debout qui se relève de son péché, qui se redresse, qui est libéré et qui arrive ainsi à atteindre sa fin sous le souffle de l'Esprit.
Et as-tu quelques conseils pour savoir ce qu'il faut, comment on fait pour entendre ce que le Christ veut de nous, comment on peut percevoir ce doigt qu'est l'Esprit Saint en nous pour mieux vivre notre vie chrétienne?
Alors, bien sûr, la prière est la première des choses. Et Jésus, d'ailleurs, nous a appris à prier en disant le Notre Père, en faisant tout recentrer vers le mystère trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a annoncé qu'il nous donnera un autre paraclet que lui, le Saint-Esprit. Et il nous a aussi promis que tout ce que nous demanderions, nous pouvons maintenant le demander aussi à lui, le Fils. Et donc, c'est toujours trinitaire, une prière trinitaire que, dans le fond, les évangiles nous ont appris. C'est cette prière-là qui qui est liturgique. Premièrement, c'est à la liturgie que l'on apprend à bien prier, c'est à la liturgie que l'on apprend à se tourner vers le Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Et je dirais que celui qui est fidèle à cette convocation dominicale commence déjà à mettre ses pas dans l'action d'écoute du Saint-Esprit, parce qu'il aura la nourriture de la parole de Dieu qui va l'instruire sur comment régler son intelligence sur la volonté de Dieu, et petit à petit aussi être inséré dans ce corps du Christ par le sacrifice eucharistique, par la communion au Saint-Mystère. Et tout cela fait un ensemble et petit à petit une transformation, je dirais, de tous les instants de la vie, à tel point que l'on peut dire qu'il y a comme une christo-conformité de l'âme au contact de l'Église, au contact des saints mystères, au contact des saints dons que le Seigneur réalise dans nos vies.
Convocation dominicale, c'est la participation à la messe du dimanche.
Alors, voilà, participation à la messe du dimanche. Le mot ecclésia, il faut le rappeler à nos auditeurs qui peut-être prennent nos émissions en route, veut dire convocation. Église veut dire convocation. Ce n'est pas la convocation de monsieur le préfet auquel il faudra obéir au doigt. Et la convocation de Dieu lui-même, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus important, beaucoup plus solennel.
Et ce que tu dis rejoint ce numéro 793 du catéchisme de l'Église catholique, qui dit que tous les membres doivent s'efforcer de lui ressembler, de ressembler au Christ, jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. C'est une expression tirée du verset 19 de l'Épître aux Galates au chapitre 4. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que ça veut dire « jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous » ?
Alors c'est vrai que nous vivons dans le temps et il y a des étapes. Par exemple, le baptême est renforcé par la confirmation, l'Eucharistie vient multiplier la grâce qui est déjà là, donc on sent bien que même déjà dans les sacrements d'initiation, il y a des étapes. Et puis après, il y a les étapes d'un état de vie, comme le sacerdoce pour ceux qui sont prêtres, l'état de vie de celui qui est marié quand il reçoit le sacrement du mariage. Il y a des étapes, et ces étapes donc permettent une progression, une adéquation de plus en plus forte avec la volonté de Dieu. Et on sait bien que tant qu'on est ici-bas, on est quand même dans le provisoire. Alors, c'est bien sûr la dynamique du provisoire, comme on dit des grands spirituels au XXe siècle, mais cet aspect provisoire nous marquera jusqu'au moment où nous serons dans le face-à-face. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est seulement le face-à-face qui achève notre formation. Tant qu'on est encore ici-bas avec le régime de la foi qui reste obscur, la foi est obscure, elle nous fait déjà adhérer à la vérité tout entière, mais nous ne la voyons pas. Nous savons qu'un jour Dieu se révélera tel qu'il est et nous le verrons tel qu'il est, dit la première épître de Saint Jean au chapitre 3, verset 2. Et pour nous, c'est très important de comprendre que c'est le face-à-face qui est l'achèvement. Et en attendant, on passe par des étapes, et les grands mystiques ont essayé de les caractériser, comme Sainte Thérèse d'Avila avec ses demeures, ou Saint Jean de la Croix avec ses nuits différentes, etc. Parce que nous avançons dans l'obscurité toujours de la foi, mais en même temps bien orientés vers le bien total qui petit à petit nous imprègne, nous inonde, nous transforme et fait de nous des personnes de plus en plus christo-conformées. Déjà le baptême, qui est une semence, apporte un signe indélébile dans l'âme qui a quatre vertus. Premièrement, il nous christo-conforme, c'est-à-dire que nous devenons vraiment membres du corps du Christ. Nous sommes aimés de lui comme vraiment un de son corps, comme un élément de son corps. Deuxièmement, il nous rend distincts de tous les autres, toutes les religions, tous les hommes de bonne volonté. Nous sommes distincts d'eux et nous bénéficions donc d'une distinction qui nous rend responsables, parce que nous avons un devoir de témoignage de cette distinction qui nous élève d'une certaine manière au-dessus des autres. Nous avons un signe qui est dispositif à la grâce, c'est-à-dire que le baptême par ce caractère qu'il imprime en nous, nous rend plus aptes à recevoir la grâce. Et si par malheur nous la perdons, eh bien, nous avons une disposition plus grande pour la retrouver. Et bien sûr, nous avons le sacrement de réconciliation, nous avons des possibilités que Jésus a fait pour accélérer ce retour en grâce, mais déjà, le caractère du baptême nous dispose à la grâce, ce qui est très important, et la grâce, c'est déjà les prémices de la gloire. Donc, on retrouve toujours le schéma de la chaîne d'or pour aller jusqu'à la glorification. Et puis, ce signe du baptême nous oblige au culte. Nous sommes en devoir de participer au culte chrétien. Ce culte chrétien nous est donc parfaitement proposé par l'Église en nous réunissant au moins une fois par semaine le dimanche. Et tout cela fait que, petit à petit, le cheminement se fait. Jésus ne dit pas directement « je ne suis que le but », mais il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, dans le chemin, c'est là où il y a le progrès. La vérité et la vie, c'est le but, mais qui est déjà participé. L'Épître aux Hébreux dit bien que nous sommes participants du Christ, participants du Saint-Esprit. Et donc, cette participation est déjà vécue d'une manière, je dirais, à dimension variable selon chacun. Comme dit saint Paul, chacun selon les degrés de sa foi, au début du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Chacun selon les degrés de sa foi. Donc, il y a du plus, il y a du moins.
Très bien, bon, on va approfondir ce sujet la prochaine fois.
Avec grande joie, parce que c'est vrai que c'est l'enjeu de tout chrétien.
Oui.
On est en face là du mystère de la fécondité de la grâce dans nos âmes.
Merci frère Edouard, à bientôt.
Merci, à bientôt.